ride del fatal destin, qu'importe, viene, viene sur nos couches, s'abattre les corbeaux en vol funèbre, Seigneur, que les élus par notre bouche trouvez votre royaume en ce ténèbre. Années banales perdent de vue la trace de leur pas. Nous, les enfants d'une époque fatale, vivons des jours que l'on n'oublie pas.
Bonsoir, bonsoir, c'est Radio Pleine Lune qui a repris la relève de Remue Ménage sur 93.8 MHz Radio Pleine Lune. Ce soir, notre programme, tout d'abord les informels de Radio Pleine Lune avec leurs informations jusqu'à 19h. Et après, nous avons une invitée, Anne-Marie Capelli. Marie-Ange, parle-nous un peu de quoi tu as parlé avec Anne-Marie Capelli.
Alors très bien, bonsoir, bonsoir. Restez à l'écoute parce qu'après nos fabuleuses nouvelles de la semaine, notre revue des presses, eh bien, nous allons recevoir Anne-Marie Capelli. Qui est Anne-Marie Capelli? Eh bien, c'est une historienne qui a concentré son travail sur le féminisme, son travail de thèse dont on sort un livre dont elle va nous en parler ce soir. Le titre du livre, c'est « Sublime croisade ». Et mais, vous saurez tout en restant à l'écoute à partir de 19h. Et donc, c'est le féminisme en Suisse romande à partir au début du siècle, ce qui est intéressant parce que c'est vraiment un travail d'historienne. Elle va aussi nous présenter un livre des poèmes qu'elle a fait à son retour d'Afrique. Oui, oui, on parle beaucoup du retour d'Afrique. Et ainsi que ses travaux en tant que dans les arts, des collages, une exposition qu'elle va présenter ces jours. Mais qui est Anne-Marie Capelli? Eh bien, c'est une Suissesse de Thun, oui, 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 de Thun. Et c'est une ancienne étudiante de l'Institut universitaire d'études du développement à Genève qui s'intéresse à la tradition orale africaine. Elle a travaillé sur les contes Igbo au Nigeria et la littérature orale tanzanienne. Ses voyages d'études en Afrique de l'Ouest et de l'Est, ainsi que ses amitiés africaines, ont nourri sa poésie. Ses priorités de recherche actuelles est l'histoire du féminisme européen du 19e siècle. Elle vit avec son fils éthiopien suisse à Genève, tout à l'heure sur les ondes, pour vous et avec vous.
À l'école, quand reviendras-tu? Jamais. On me gavera, on m'endormira, on me hachera, on me mangera. Garçon, je vais à l'école, quand reviendras-tu? Jamais. garçon, je vais à l'école. Quand reviendras-tu? Jamais. Mon père, es-tu là? Je prends mon cabas. Mon maître, es-tu là? Je prends mon compas. Allons dans le bois. Vas-tu, petit garçon, à la boucherie? Quand reviendras-tu? Jamais. 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 Jamais.
C'est notre nouvel disque pour introduire les nouvelles des informels sur Radio Zone 93.8 MHz. Les nouvelles en Allemagne, les effets étranges de la réunification des deux Allemagnes. Une ex-terroriste de la fraction armée rouge arrêtée en RDA. Suzanne Albrecht, ancienne chef de file du groupe d'extrême-gauche fraction armée rouge, la RAF, une des terroristes les plus recherchées d'Allemagne fédérale, a été arrêtée mercredi dernier à Berlin-Est par la police criminelle est-allemande. Elle est accusée d'avoir participé à deux actions commises l'été 1977, le meurtre du président de la Dresdner Bank, Jürgen Ponto, et l'attentat manqué à l'explosif contre le parquet fédéral de Karlsruhe. Suzanne Albrecht, 39 ans, vivait depuis 10 ans en RDA. Régulièrement enregistrée en RDA en 1980, elle a obtenu la nationalité est-allemande dès son arrivée. Elle s'est mariée, a eu un enfant. Rentrée avec son mari et son enfant dimanche dernier en RDA, Suzanne Albrecht a été interpellée à son domicile. Elle n'était pas armée et n'a opposé aucune résistance. Le fait que Suzanne Albrecht ait pu vivre tranquillement depuis 10 ans en RDA conforte l'hypothèse d'une connexion est-berlinoise pour les terroristes de la RAF. L'arrestation résulte d'une étroite collaboration entre les ministères de l'Intérieur et les polices des deux Allemagnes. En France, le gouvernement est divisé sur l'opportunité de rouvrir les maisons closes. La prise de position de Mme Michèle Barzard, ancien ministre de la Santé, en faveur de la réouverture des maisons closes comme moyen de lutter plus efficacement contre le sida, a donné lieu à d'étonnantes dissonances gouvernementales. Mme Michèle André, secrétaire d'État chargée des droits de la femme, condamne immédiatement cette proposition, la qualifiant d'idée inadmissible et de solution réactionnaire. M. Bernard Kouchner, secrétaire d'État chargé de l'action humanitaire, par contre, estime que le problème mériterait d'être posé. Le Parti socialiste juge que l'éventuelle réouverture ne manquerait pas d'aggraver le sort des femmes soumises à la prostitution, souvent par la misère, qui se verraient un peu plus livrées à la loi du milieu et ainsi conforterait les réseaux de proxénétisme. Madame Ségolène Royal, députée PS, estime qu'une telle proposition est, je cite, « contraire aux règles éthiques, inefficace, car les prostituées ne sont pas seules responsables du sida ». Se déclarant contre l'esclavage des femmes et contre la législation du proxénétisme, la députée affirme qu'elle ne votera jamais une loi allant dans ce sens. Rappelons-nous qu'en 1975, alors que les prostituées se bougeaient, notamment aussi à Genève, elle s'était nettement prononcée contre les maisons closes qui les enfermaient dans un ghetto. La lutte contre la stérilité des femmes fait que le slogan d'un enfant quand je veux s'est retourné contre les femmes. Après avoir deux, trois, quatre enfants à la fois est peut-être un exploit médical, mais psychologiquement, c'est un exploit qui se paye cher. La photo occupe presque une pleine page du livre Guinness des records. Sur un drap bleu, six nourrissons alignés en deux rangées, comme des assiettes sur un vaisselier. Leurs frimousses ne sont pas identiques, leurs vêtements si. Brassière blanche et barboteuse à rayures bleu marine. Ils portent aussi le même nom de famille, Adam. Le Guinness précise que Marie-Claude et Daniel Adam sont devenus les heureux parents des premiers sextuplés français, le 14 janvier 1989. Marie-Claude, 29 ans, n'avait pas d'enfant parce qu'elle ne voulait pas. Un traitement par inducteur d'ovulation a transformé sa stérilité en hyperfécondité, ce qui pose de redoutables problèmes pratiques. 48 biberons par jour, 1600 couches par mois. Par chance, les associations locales et l'usine Renault où travaille Daniel sont venues au secours des parents débordés. Le Guinness conclut avec optimisme, tout semble être mis en œuvre pour élever au mieux les uniques sextuplés français. Il y a 30 ans, Marie-Claude n'aurait pu devenir mère. Apparue en 1967, les inducteurs à base de gonadotrophine ont permis de déclencher l'ovulation sur commande lorsqu'elle ne se produit pas spontanément. Ces traitements ont guéri des stérilités jusque-là irréductibles. Mais en forçant la nature, on a provoqué une véritable floraison de triplés, quadruplés et quinduplés. En 1971 et 82, entre 1971 et 82, leur nombre a augmenté proportionnellement à celui des ventes des ampoules de gonadotropiques, écrit Anne Cabot, gynécologue. Si en 1971, ils ne s'en vendaient guère que 100 000 par année, on est arrivé en 79 à 500 000 pour dépasser en 88 les 2 millions. Alors qu'en France, depuis 100 ans, le nombre de naissances triples était de 60 à 90 par an, il a commencé à augmenter en 1976, atteignant 197 en 87. Le nombre de naissances quadruples, qui était de 0 à 2 depuis 100 ans, a évolué à partir de 1966, atteignant 16 en 79. Quant aux naissances de quintuplés, inconnues en France jusqu'en 71, elles ont été de 6 en 78. Anne Cabot, qui traite des couples stériles depuis 25 ans, estime que la naissance de quadruplés ou de quintuplés a parfois été présentée comme un succès thérapeutique alors qu'il s'agit en général d'une erreur médicale ou au minimum d'un dérapage. Car la femme est faite pour porter un enfant à la fois. Au début du cycle normal, l'ovaire contient plusieurs follicules dont chacun recèle un ovocyte. Mais au bout de 6 à 8 jours, un seul follicule, dit dominant, continue à croître. Parvenu à maturité, il libère son ovocyte. C'est l'ovulation. Capté par la trompe, l'ovocyte peut ensuite fusionner avec un spermatozoïde pour former un embryon. Le processus naturel est finement régulé par une cascade biochimique. L'hypothalamuse commande l'hypophyse, laquelle agit sur l'ovaire par l'intermédiaire de deux hormones, la FSH et la LH. Les traitements aux gonadotrophines court-circuitent cette régulation. Ils bombardent les ovaires, si bien que le mécanisme de sélection du follicule dominant est bloqué. Résultat, plusieurs follicules peuvent croître en même temps, entraînant une ovulation multiple. Ce forçage ne se fait pas sans casse. Les grossesses multiples sont devenues la principale cause de prématurité. De plus, les traitements par gonadotrophine entraînent un taux de fausses couches supérieur à la normale de l'ordre de 25%. Enfin, une étude britannique a montré que la mortalité infantile était 5 fois plus élevée chez les jumeaux que chez les enfants uniques et 15 fois plus élevée chez les triplés, quadruplés et quinduplés. Les gonadotrophines font l'objet d'un tel engouement qu'on les prescrit de plus en plus souvent, non seulement aux femmes qui n'ovulent pas, mais à celles dont les trompes ne sont pas parfaites, ou dont la stérilité est inexpliquée, ou qui sont simplement pressées d'être enceintes. Il arrive même qu'on indique ces produits en cas de stérilité de l'homme pour rendre la femme plus féconde. 50% des troubles de l'ovulation pourraient être guéris sans recourir aux inducteurs, explique la gynécologue Anne Cabot. Certaines femmes n'ont pas leurs règles parce qu'elles ne mangent pas assez. Dans notre société d'abondance, où le beefsteak n'est pas une denrée rare, je vois des femmes anémiées comme si elles venaient d'un pays du tiers-monde. Obsédées par la peur de grossir, elles traquent la moindre rondeur. Or, le centre de l'appétit est dans l'hypothalamuse, près du centre de commande des ovaires. ces femmes bloquent leur fonction hypothalamique comme si elles appuyaient sur le frein d'une voiture. Leur donner des inducteurs revient à accélérer pendant qu'elles freinent. Je préfère leur apprendre à lâcher le frein. Tous les médecins ne raisonnent pas ainsi. Face à la demande de plus en plus pressante des couples stériles, ils ont tendance à fournir, peut-être trop vite, une solution technique. Ce n'est pas forcément la bonne réponse, explique Monique Bidolowski, psychiatre et psychanalyste. Demander un enfant est une plainte, une revendication. Cela ne correspond pas toujours à un désir réel. Et puis, la médecine doit-elle tout résoudre ? Paradoxalement, le slogan libérateur du planning familial « Un enfant, quand je veux, si je veux » s'est retourné contre les femmes. La maîtrise de la contraception a entraîné l'illusion que l'on maîtrisait la conception, que l'on pouvait programmer ses enfants comme sa carrière. Il y a comme un enchaînement fatal, pilule à 14 ans, études, travail, carrière, appartement et en point d'orgue, l'enfant programmé. Et là, patatras, l'infertilité s'installe. Alors, on se tourne vers la médecine, censée fournir la solution miracle. Notre société a substitué la fatalité technique à la fatalité naturelle. Afrique du Sud, le retour de Myriam Makeba. La chanteuse sud-africaine Myriam Makeba a annoncé vendredi 8 juin qu'elle rentrerait au cours du week-end à Johannesburg après 28 années d'exil. « Je me sens engourdie, je ne le croirai que lorsque je serai dans l'avion », a-t-elle déclaré. En Finlande, une femme à la tête du ministère de la Défense, Madame Elisabeth Rehn, chef du groupe parlementaire du petit parti suédois, va être la première femme nommée ministre de la Défense en Finlande. À Genève, le bastion universitaire agité par le vent des femmes, le Dies Academicus a osé aborder cette année des véritables problèmes de l'université plutôt que de se passer de la pommade parmi. Et un des gros problèmes de l'université est l'égalité homme-femme. C'est évident, la question fait tache dans le paysage académique. L'égalité des chances entre hommes et femmes est encore une vue de l'esprit, bien qu'elle soit bel et bien une réalité juridique. Martine Chaponnière, membre du conseil de l'université, n'apprécie pas. Dominique Felmy non plus. Dans son discours au Dies Academicus, Martine Chaponnière a donné des chiffres. L'université compte aujourd'hui plus de 50% d'étudiantes. Le nombre des femmes professeurs oscille, lui, entre 2 et 3%. Quant au rectorat, il est 100% masculin. Pourquoi donc les femmes sont-elles les éternelles perdantes? Martine Chaponnière y voit des causes externes. Les femmes n'osent pas. Elle manque d'ambition, ne pense pas en termes de carrière, etc. Mais, précise-t-elle, les causes sont aussi internes. L'institution universitaire est une institution masculine. Quoique cette affirmation puisse paraître choquante à certains, il faut se rendre compte qu'un organisme géré depuis plus de 400 ans exclusivement par les hommes fonctionne selon un certain nombre de normes conformes aux façons de faire, aux comportements, au parcours de vie des hommes. Par conséquent, la tradition pèse tout son poids sur l'imaginaire de jeunes filles qui en viennent à croire que fatalement, le professeur d'université n'est pas une femme. Dans le contexte universitaire, remarque Martine Chaponnière, donc, qui a fait un discours devant le Dies Academicus, l'idée de penser en termes de rapport de sexe est absente. Pour illustrer son propos, elle rappelle que voilà 2 ans, un projet de loi visant à favoriser l'égalité des chances entre hommes et femmes a été voté à l'unanimité par le Conseil de l'université. Il y a une année, le Sénat, ensemble du corps professoral, disait oui au principe de l'égalité, mais non au projet en question. Sur le thème de la Mulier Academica, le chef du DIP, qui était aussi présent pendant le DIS, remarque d'ailleurs qu'il faudra nécessairement se résoudre à agir sur l'employeur par des mesures contraignantes qui favoriseront les candidatures féminines. 2 options sont en jeu. Le système dit du choix préférentiel qui donne la priorité à la candidate chaque fois que celle-ci peut faire valoir des compétences équivalentes. Ou alors le système des objectifs quantifiés qui définit un quota de nominations féminines. Un discours, donc Dominique Felmy, qui ne sera sans doute pas tombé dans l'oreille d'une sourde. À la fin des discours, des petites filles ont levé des banderoles réclamant pour leur futur une école et une université où les femmes ont une vraie place. À Genève, femme licenciée pour grossesse. L'annonce d'un heureux événement n'est pas forcément reçue dans la joie et le bonheur. Jocelyne en a fait la douloureuse expérience. Jocelyne est engagée en qualité de coiffeuse dans un salon. Du Petit Saconnet, son employeur est, elle, gérante des lieux. Tout se passe bien jusqu'au jour où l'employée annonce qu'elle est enceinte. Au lieu des félicitations d'usage, son employeur manifeste un courroux certain. Quelques jours après, Jocelyne reçoit la visite d'un huissier porteur d'une lettre de licenciement. Dans cette missive, la gérante explique que son propre contrat arrivant bientôt à terme, elle est tenue de se priver des services de Jocelyne. Et depuis le 5 mars dernier, la jeune femme est donc sans emploi et sans salaire. La future maman découvre une nouvelle indélicatesse de son employeur lorsqu'elle se rend à la caisse d'assurance. La gérante était censée y avoir versé une quote-part, mais ce n'était pas le cas. Aucune trace desdites cotisations. Tous les contrats d'assurance avaient été résiliés en 87. S'adressant à la caisse d'assurance vieillesse, elle obtient la même réponse. Rien n'a été versé depuis 3 ans. Or, sur la fiche de salaire de Jocelyne figure bel et bien ses retenues. La jeune femme s'adresse alors au tribunal des prud'hommes, lequel condamne l'employeur indélicat à lui verser la somme totale de 23 000 francs. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Pas tout à fait. Car entre-temps, l'employeur a changé d'emploi. La gérante est aujourd'hui employée dans un autre salon de coiffure. Jocelyne n'a pas encore vu la moindre trace de la somme qui lui est due. Il ne lui reste plus qu'à solliciter l'office des poursuites. La durée de la procédure est variable. En théorie, elle est fixée à quelques jours. En pratique, elle dure 2 ans en moyenne. Puisque dans ce cas, l'office devra opérer une saisie de salaire tenant compte des ressources de l'ex-employeur. Et d'ici à couvrir la totalité de la somme. En attendant, Jocelyne ne perçoit aucune indemnité. Le tribunal des prud'hommes ayant statué en sa faveur, elle ne peut bénéficier de l'assurance chômage. À Genève, une femme candidate à la Cour de justice, Antoine Stalder, membre du Parti socialiste, a été élue hier à la Cour de justice. Première femme à accéder à ce poste, elle succédera au nouveau procureur général, Bernard Bertossa. À Fribourg, les maîtresses auront de nouveau le droit de se doucher nues sous les douches. Les maîtresses des classes enfantines de Fribourg pourront continuer à prendre leur douche nue avec leurs petits élèves l'issue des leçons d'éducation physique. Ainsi, on a décidé l'exécutif de la ville. En mai dernier, un père de famille de Fribourg parlait de scandales et de cochonneries en portant à la connaissance du public que son fils, qui suit les classes enfantines dans une école alémanique de Fribourg, se retrouvait sous la douche avec sa maîtresse. Le cher petit était obligé de lever les yeux au ciel pour masquer son trouble. Radio Pleine Lune sur Radio Zoo 93.8 MHz, c'était nos nouvelles.
Get your troubles out.